France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Il dédouble Laurent Lafitte dans leur film Alter Ego. Les réalisateurs Nicolas Charlet et Bruno Lavenne seront mes invités à partir de 13h. Mais pour se mettre en jambe, rien de tel que la critique. Aujourd'hui, les spectacles de deux humoristes qui ont décidé de prendre la vie comme elle vient. On va donc parler de Au-delà, de Romane Fraissinet, disponible sur Canal+, et du Sens de la vie d'Alexis Le Rossignol au Théâtre Rive Gauche à Paris et en tournée en France. Vous écoutez les midis de culture aujourd'hui, tout est permis. Et pour parler humour et philosophie aujourd'hui, j'accueille pour la première fois au micro des midis Rossana Di Vincenzo, journaliste indépendante humour. On peut notamment vous lire dans Télérama. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Marie.
Adrien Desnouettes, on vous connaît, vous. Critique de cinéma et enseignant. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux.
Dans le théâtre de tous les rêves, il y a des soirs où tout se joue.
L'Olympia !
Oubliez les doutes, plus rien ne compte, à part l'instant présent.
C'est le bon moment, là !
Puiser en soi les ressources et dépasser ses limites. Il n'y a qu'une chose à faire avec ses limites. Se transcender et aller au-delà.
On commence donc cette table ronde de critique spéciale humour avec le nouveau spectacle de Romane Fraissinet, 2 ans après un premier seul en scène intitulé « Au-dedans », où il racontait son chemin vers l'apaisement et la fin des addictions. Il revient avec « Au-delà ». Et cette fois, l'ancien chroniqueur de l'émission Clic sur Canal+, a décidé de faire la paix avec le monde qui l'entoure. « J'ai décidé de prendre tout bien », assène-t-il. Le spectacle enregistré à l'Olympia est disponible sur Canal+. Et on commence avec quelques mots d'introduction. D'abord, Rossana Di Vincenzo.
Alors, c'est un spectacle qui parle vraiment du fait de trouver sa place dans le monde. Romane Fraissinet, donc c'est le deuxième volet d'une trilogie, hein, puisque vous l'avez dit, Au-dedans, qui est sorti il y a à peu près 2 ans. Celui-là, Au-delà, et il y en aura un troisième également qui sera disponible sur Canal+. Dans celui-là, il est égal à lui-même, hein, donc... tout en digressions absurdes, anecdotes délirantes de sa vie quotidienne. Et il poursuit en fait son introspection sur ce monde de zinzin, comme il dit, où on accorde plus d'importance au marketing d'un produit qu'au produit en lui-même. Et lui, la place qu'il a décidé de prendre, c'est-à-dire d'être heureux et de prendre les choses comme elles viennent et de prendre le meilleur. Et je trouve que c'est un spectacle qui est assez positif et qui fait du bien. Quoi, tout simplement.
Adrien Desnouettes.
Bon, avis assez tranché, du coup, je le découvre. Moi, Romane Fraissinet, bah, pour tous les suiveurs du stand-up, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis à peu près 10 ans, c'est-à-dire depuis ses chroniques Clic. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de métiers, ça vraiment, on peut pas lui enlever. Je dirais même que, en fait, c'est quelqu'un que je trouve enfermé dans toute cette maîtrise, dans tout ce métier. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est un parcours assez symptomatique de ce qu'est devenu le stand-up en France, c'est-à-dire une importation d'un style très américain qu'on apprend, qui s'apprend, et dans lequel on apprend à maîtriser son personnage. Le problème avec Romane Fraissinet, c'est un problème que j'avais déjà identifié avant et que je retrouve ici de manière très très forte, presque exacerbée, c'est que ce personnage qu'il maîtrise, moi je trouve qu'il est complètement enfermé dedans. Mmh. Et je sais plus ce qu'il peut me raconter avec ça, je comprends plus vraiment comment le point de vue de ce personnage peut encore se connecter à son public. Et pour moi, c'est très symptomatique d'une question qui me passionne assez en ce moment, notamment après avoir parlé de Dave Chappelle la dernière fois. C'est comment vieillir dans le stand-up? Comment on peut vieillir quand on a connu le succès dans le stand-up? Pour moi, il y a un truc qui est vraiment compliqué, il y a un vrai paradoxe. C'est comment on peut rester l'homme de la rue qui s'autorise à monter sur scène pour dire ce que les autres ont dans la tête, quand en fait, on n'est plus du tout l'homme de la rue, quand on est complètement déconnecté par sa réussite. Et je trouve que Romane Fraissinet tombe vraiment là-dedans.
Alors, bon, ça va être intéressant, je pense. Rossana Di Vincenzo, vous disiez, c'est un spectacle qui rend heureux, qui fait du bien. Enfin, lui, il a décidé d'être heureux et le spectacle fait du bien. Et comment il arrive à nous faire rire avec le bonheur? On sait que c'est quand même difficile, ça.
Alors, déjà, quand Adrien parle du fait de la question de vieillir en humour, je rappelle quand même que Romane Fraissinet a 31 ans, donc c'est pas non plus une personne âgée. Il a commencé effectivement très tôt, il s'est formé très tôt, il a quand même décidé de partir au Canada à 18 ans pour réaliser son rêve d'être humoriste. en s'inscrivant à l'École nationale de l'humour de Montréal. Il a effectivement une technique très à l'américaine, hein, puisqu'il est formé au Canada, donc inspiré et influencé par le stand-up à l'anglo-saxonne. Mais c'est quelqu'un qui est revenu au bout de 5 ans, qui est revenu avec un premier spectacle qui s'appelait Alors, dans lequel il était déjà sur cette introspection faite d'humour absurde, de digressions, de parallèles avec des animaux, des choses comme ça, les choses très absurdes du quotidien. Et en fait, je pense qu'il arrive à nous faire rire tout simplement parce que il ne prétend pas être autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire un jeune homme de 31 ans qui, à un moment donné dans sa vie, s'est remis en question, a arrêté toutes les substances. Mmh. Il a eu souvent cette cet air de mec perpétuellement sous drogue ou perpétuellement alcoolisé. Il a arrêté donc évidemment les drogues, l'alcool, même le sexe, hein, il le disait d'en haut dedans. Aujourd'hui, il est le seul vice qui lui reste, c'est la cigarette, hein, donc c'est ce qu'il raconte dans le spectacle. Mais il décide en fait à un moment donné de se dire bon bah voilà, je suis ce jeune homme là de 31 ans, j'ai le droit d'évoluer, j'ai le droit de changer d'avis, de regarder la vie comme elle est aujourd'hui et je vais vous la raconter sous mon prisme à moi, et je pense pas que ça soit une histoire de technicité ou de... Alors effectivement, des fois, il a des postures un peu caricaturales, la main sur le pied de micro, l'éthique de langage, un peu effectivement de jeune homme de la rue, ce qu'il n'est pas forcément. Il a grandi dans le 94. Enfin, je veux dire, c'est classe moyenne. Enfin, il n'est pas issu des quartiers populaires, on va dire. Mais il est, c'est un jeune homme de 31 ans qui regarde la vie, qui essaye d'en rire et qui espère que, en trouvant sa place, on est le plus sincère possible. Et je pense que c'est à ça que les gens se connectent, en fin de compte.
Parce que le public accroche complètement.
Hein, le public accroche complètement. Et d'ailleurs, toutes les interactions qu'il mène, même si certaines sont, à mon goût, un petit peu vulgaires à certains endroits, moi, je suis jamais adepte des... alors, pardonnez-moi l'expression, des ta-gueules ou d'autres gros mots comme ça qu'on peut lancer au public. Mais il y a une connexion qui se crée. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont voir de l'humour, qui peuvent se reconnaître dans sa personnalité, dans ce qu'il est, c'est-à-dire un jeune homme, voilà, qui fait de la scène parce qu'il a envie de rire, il a envie de faire rire et qui prétend pas analyser plus que ça. D'ailleurs, il parle pas de politique, hein, je veux dire, ou très peu. Il raconte juste un peu ses déboires de la vie quotidienne et ce qu'il en fait. Et c'est en ça que je pense que le public s'accroche, quoi, entre guillemets.
Adrien Desnouettes.
Non, bah ressenti très très différent, et notamment sur un point très très précis, c'est que à l'instant Rossana utilisait le mot de sincérité, ce qui est un mot très compliqué parce que c'est difficile de parler de sincérité quand on parle de scène. Il y a toujours une part de performance, de représentation. Le personnage, même en stand-up où on s'adresse en sa propre personne, bah il y a forcément un jeu. Donc c'est très difficile de parler. Enfin, la sincérité, moi c'est un mot que je trouve très très consensuel, mais qui en fait est important dans le stand-up, parce qu'en fait c'est pas parce qu'on joue un personnage qu'on peut pas être sincère. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on joue un personnage qu'on ne peut pas porter à travers lui un point de vue.
Mais là vous avez l'impression qu'il n'est pas sincère ?
Bah non. Moi j'ai un problème avec la sincérité de Romane Fraissinet, mais que je vais expliquer.
Allez-y.
C'est que c'est pas parce qu'on porte un personnage qu'on ne peut pas porter un point de vue sincère sur les choses, et que ce personnage peut pas aider comme une espèce de petit promontoire à voir les choses autrement. Et d'ailleurs c'est très intéressant après de parler d'Alexis Le Rossignol, qui en fait a à peu près la même démarche, à peu près la même philosophie, la même morale, c'est-à-dire le même point de vue sur la vie, c'est-à-dire une espèce d'épicurisme à la cool. J'en ferai pas plus, voilà ce que je suis, qui est en fait un peu la morale du stand-up. Mais là où ça ne marche pas avec Romane Fraissinet, ou en tout cas, ça ne marche plus, parce que j'ai trouvé effectivement que ça marchait très très bien au début. Moi, je me souviens de l'apparition de Romane Fraissinet à Clic, c'est là que je le découvre, et que je m'intéresse un peu à lui. Je trouvais qu'il était très bon, c'est-à-dire que je croyais vraiment dans son personnage de, très bien décrit par Rossana, de petit branleur en robe de chambre, qui passe sa vie en chaussettes, à fumer de la weed. Voilà, c'est un personnage qu'on connaissait, qui se donnait des petits accents de la street pour voilà cultiver un peu son côté banlieue. Que ce soit sincère ou pas, peu importe, ça marchait bien, le personnage était bien, et surtout, il avait un vrai talent d'écriture qu'il a toujours. Hein. Et quand j'insiste tout à l'heure sur le métier et sur la maîtrise, c'est que je parle justement de ces écoles qu'il a faites au Québec, notamment, il en parle, c'est pas du tout secret, mais justement, il est quelqu'un qui a tellement façonné son personnage qu'il n'est plus que ça. Et moi, je trouve que son personnage n'est plus sincère. Et ça se voit dans le spectacle. Parce qu'en fait, il y a un pacte qui est truqué dès le départ. Romane Fraissinet, c'est quelqu'un qui arrive avec ce personnage et qui vous dit, mais en fait, à travers ce personnage de branleur de 31 ans, je suis comme vous. Vous, mon public, on va se reconnaître. C'est un peu vrai, c'est ce que disait Rossana. Il a un public, son public l'adore. Et je pense que le public adore se reconnaître en lui. Là-dessus, c'est pas là que je parle de sincérité. Le problème, là où il y a un pacte qui pose problème, et qui pose un problème de comédie même, de rire, où moi, ça ne me fait jamais rire, c'est qu'à un moment, en fait, ce truc-là, il va essayer de donner des preuves de sa sincérité en disant « Mais moi aussi, je suis idiot. Regardez, on est tous zinzin, on est tous idiots. Moi aussi, je fais des trucs d'idiot. » Et pendant un premier tiers du spectacle, Romane Frayssinet va dérouler comme ça sur le thème de sa propre idiotie. Faut, a priori, avec beaucoup d'autodérision, on dirait comme ça en façade, que lui aussi est comme nous. Sauf que déjà, je me dis, c'est quand même un peu étonnant que cet humoriste prétend être comme nous, sachant qu'on sait très bien où il est à l'Olympia, et on sait très bien où il est dans sa carrière, à 31 ans. Faut quand même le rappeler, c'est un petit prodige, Romane Frayssinet. Je parlais tout à l'heure de Dave Chappelle, mais il y a un même syndrome, sauf que Dave Chappelle, il en a 55. À 31 ans, Romane Frayssinet, et il donne cette impression d'avoir déjà tout accompli dans le stand-up. Et c'est même quelqu'un qui, en interview, c'est très important, dit, moi j'avais un plan de carrière. Ça commençait à 20 ans, ça finit à 33. 33, c'est pas anodin, c'est très symbolique. Quand on dit que mon plan de carrière, il s'arrête à 33 ans. C'est qu'on se donne une posture de prophète. Et en fait, c'est peu à peu ce qui se passe dans le spectacle. C'est-à-dire que sous couverture de cette modestie de « Mais non, je suis comme vous, je suis un idiot en robe de chambre et en chaussettes, et moi aussi, j'ai des problèmes de cul et tout. » Mais c'est pas vrai, parce qu'en filigrane, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est que maintenant, il vit dans le centre de Paris. Il commence avec une blague sur une boulangerie, une pâtisserie qui vend des pâtisseries en forme de quéquette. C'est connu, ça s'appelle la quéquetterie. La quéquetterie, c'est dans le 2e arrondissement de Paris. On sait où c'est.
Et donc,
non, c'est important. Parce qu'il nous inocule où il vit. C'est exactement ce que fait son grand copain qui est Redouane Bougaraba, qui très par petites touches nous disent où ils vivent. Ils vivent à Londres, dans le centre de Paris. Ils ont réussi. Et en fait, le fond de ce spectacle, ils ont absolument le droit d'avoir réussi, mais le fond de ce spectacle, peu à peu, c'est de nous dire j'ai réussi. Et en fait, peu à peu, on va glisser sur une espèce de grand show de prédication où le fond du spectacle, c'est de nous donner des leçons de vie, de nous donner des leçons de bonheur. C'est-à-dire que du haut de cette réussite et de mes 31 ans de, voilà, des 10 ans de stand-up, j'ai 31 ans et je peux vous en apprendre en grand frère. En fait, on va tomber dans une espèce d'auto-glorification, d'auto-certification, où tout le spectacle ne consiste plus qu'à alimenter sa propre légende. Exactement comme le font les grands comiques de stand-up américains qui n'arrivent plus à sortir de cette posture où, parce qu'ils ont réussi et qu'ils montent encore sur une scène de stand-up, ils se sentent légitimes à nous donner des leçons de vie. Mais je terminerai là-dessus, ça n'est pas drôle, quelqu'un qui vous donne des leçons. Nous, on a envie d'autodérision, on a envie de quelqu'un qui nous dit « Mais je suis encore, malgré ce succès, en connexion avec vos déboires, votre honte, vos passions tristes. Je ne vois que quelqu'un d'heureux qui ne cesse de nous faire la publicité de sa réussite. »
Rossana Di Vincenzo, il y a de la dérision, il y a de l'autodérision, à votre sens?
Oui, moi je pense que... Alors, je suis absolument pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je pense qu'il y a de l'autodérision, parce qu'il se pose pas en prophète, enfin, j'ai pas du tout cette impression-là. Pour moi, il porte un regard assez lucide sur ce qu'il est, c'est-à-dire effectivement oui, alors je vais utiliser un mot un peu vulgaire, mais un petit branleur, effectivement, qui regarde les choses un peu comme ça, avec nonchalance, etc., etc. Mais il admet quand même qu'il a des défauts. Enfin, il le dit lui-même, il est prétentieux, il est égoïste, il ne veut pas s'engager. Enfin, je veux dire...
Pour mieux se complaire dedans, en fait.
Je ne sais pas s'il se complète dedans. Je pense qu'à 31 ans, à ne pas avoir envie de s'engager, c'est encore quelque chose de tout à fait naturel pour plein de gens. Enfin, donc, je pense pas qu'il se pose au-dessus du public ou au-dessus de qui que ce soit, en fait. Il livre juste sa vision à lui.
Rossana, qu'est-ce qui vous fait vraiment rire chez lui, par exemple?
Moi, j'aime vraiment la mécanique de son écriture. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement efficace. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des running jokes, l'absurde qui est poussé à l'extrême, les espèces d'anecdotes un peu délirantes qui lui arrivent dans la vie et qu'il extrapole comme ça sur scène. Là-dessus, il est vraiment très fort, je trouve, et alors c'est évident que c'est dû à sa formation, hein, je veux dire.
Il y a du métier,
il a été à l'école québécoise, c'est une des plus grosses écoles de formation au monde en termes d'humour. Il en est sorti quasiment majeur de sa promotion, enfin je veux dire, donc c'est un talent pur. Donc vraiment, en termes d'écriture, en termes d'efficacité, de rythme, il est très au-dessus de beaucoup de gens dans ce milieu, donc on peut pas le nier.
Au-delà.
Je voulais juste
vraiment mettre une phrase.
Ouais, mais en fait, une image éclairante. En fait, on ne peut pas continuer à faire croire qu'on est le Big Lebowski en robe de chambre et chaussettes et chaussons tant qu'on ne signe plus des chèques de 62 centimes, qui est la première blague du film. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire croire à ça. Quand vous êtes une rockstar, vous pouvez plus vous faire passer pour l'homme de la rue. Et donc, c'est ça que j'appelais l'insincérité, et c'est ça que j'appelais la difficulté, le problème que pose le stand-up, qui est le vieillissement dans la réussite. C'est très difficile.
On en reparlera, j'imagine, dans de prochaines émissions. Et puis, on attend voir ce que ça va donner la suite, la fin de la trilogie Au-delà. Romane Frayssinet, disponible sur Canal+. Adrien Desnouettes, je vous redonne la parole pour votre coup de cœur.
Bah, un coup de cœur à l'adresse spéciale de ceux qui s'intéressent à l'humour américain et à sa comédie. Coup de cœur donc pour un petit objet déniché dans l'océan de contenu proposé par les plateformes et qui est complètement passé inaperçu. Pour la simple et bonne raison que, alors pas pour la raison de son réalisateur, puisque c'est Ben Stiller, c'est un documentaire de Ben Stiller dont je vais vous parler, qui passe sur la plateforme d'Apple, Apple TV. Et en fait, pourquoi c'est complètement passé inaperçu? Parce qu'il se trouve que Ben Stiller, qu'on connaît très bien, hein, c'est un acteur super connu, un grand réalisateur, Marie à tout prix, Mon beau-père et moi, réalisateur de Tonnerre sous les tropiques. Donc, a priori, on aurait pu s'y intéresser. Mais en fait, Ben Stiller, ce qu'il fait, c'est qu'il se livre à une espèce d'introspection, vraiment une espèce de thérapie devant la caméra, à l'occasion du décès de son père et à l'occasion de vider la maison de ses parents. Or, ses parents, ce sont pas n'importe qui. En France, on ne le sait pas, mais ses parents, c'était un duo d'humoristes. Et en fait, il va surtout se pencher sur l'histoire de ses parents. Et donc, le film s'appelle Stiller and Mera. Stiller, c'était donc le nom de son père, et Mera, qui était le nom de sa mère. Et ce qui est très intéressant, c'est que Stiller est un nom juif, et Mera est un nom irlandais. Et en fait, ce duo d'humoristes, outre l'anecdote de découvrir que Ben Stiller était un enfant de la balle, voilà, qu'il a grandi avec des humoristes et tout ça, et que donc son talent ne vient pas de nulle part. Outre ça, vraiment, ce qui est très intéressant, c'est de voir ce qu'ils ont fait, en fait, ces deux humoristes, dans l'Amérique des années 60 et 70. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'était un duo d'humoristes qui assumait d'être humoriste à la scène, couple à la scène, pardon, et couple à la vie. Et c'est exactement ce qu'ils étaient, c'est-à-dire un couple à la scène, qui jouait un couple, et ils étaient aussi un couple à la vie, qui avait des enfants. Et donc, ils ont dû tenir un petit peu ils ont dû retrouver un équilibre sur les deux tableaux. Or, n'importe qui sait que travailler ensemble et être aussi un couple à la maison, c'est que c'est très difficile. C'est forcément un équilibre extrêmement précaire. Et ce qui est très très beau dans le film, c'est que c'est moins évidemment sur l'introspection ou la thérapie hollywoodienne de Ben Stiller, c'est beaucoup plus quand il s'intéresse à ses parents et qu'il nous dit, mais en fait, ce qui est très intéressant avec mes parents, outre les sketchs, c'est qu'on leur a beaucoup donné la parole sur qu'est-ce que c'est qu'être un couple, qu'est-ce que c'est que faire mariage, alors qu'on travaille ensemble en plus d'avoir une famille. Et donc, en fait, c'est un couple qui a énormément réfléchi et parlé, qui s'est exprimé sur le fait de faire couple et d'être un mariage. Et si vous replacez ça dans l'humour des années 60 et 70, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne tout simplement une anomalie de modernité. Parce que c'est quoi la première des blagues de l'humour, et en particulier de l'humour de scène américain? Le mariage. Et c'était toujours des blagues assumées, surtout dans ces années-là, par des bons hommes sur leurs bonnes femmes. Et c'est toujours extrêmement pris dans énormément de misogynie. Revoyez la scène des Affranchis où vous avez un humoriste de stand-up au Copacabana. La première blague qu'il fait, c'est « Prenez ma femme, gardez-la ». C'est l'humour traditionnel. Et là, vous avez soudain un couple d'humoristes qui non seulement assume de venir de deux communautés différentes, la communauté juive de New York, la communauté irlandaise, ce qui n'était pas du tout assumé à l'époque, dans l'humour même de scène américain, alors que c'était un pays communautaire, mais qui en plus assumait de partager justement ce point de vue, de faire couple dans ce point de vue, et donc d'alimenter le point de vue de l'homme par le point de vue de la femme. Et justement, c'est ça qui est très beau, c'est qu'en fait, constamment dans le documentaire, Ben Stiller vous montre que le vrai talent comique, celle qui avait vraiment la vis comica, qui était beaucoup plus forte que l'autre, c'est sa mère. Et son père le reconnaissait. Son père a des paroles extrêmement tendres envers sa femme. C'est lui qui lui survit, c'est lui qui dit que c'était une personnalité formidable et qu'il n'aurait rien pu faire sans elle. Et moi, je trouve que, à l'heure de la domination sans partage du stand-up, et donc de l'accomplissement de soi sur scène, du soi et du moi qui parle, on parle là de deux stand-up par exemple, eh bien ça fait du bien de se replonger dans des duos et de se rappeler ce que rapportait le regard de l'autre en fait. Le regard de l'autre, c'était aussi une meilleure façon d'intégrer l'autre, l'autre sexe, l'autre parent, l'autre communauté, pour alimenter sa propre connaissance de soi. Et je trouve que Stiller and Mera ne parle que de ça.
Stiller and Mera, Nothing is Lost, c'est sur Apple TV.
Dans la salle à manger, il y avait une photo un peu plus grande que les autres, mais celle qui est gratuite avec les 50 impressions, de mon ex. Sur le buffet, comme ça. Mais pas de moi du tout, quoi. Même pas un bout d'épaule. Rien. Que elle. J'ai bouffé face à elle, quoi. Je dis, ça vous dérange pas, là? Ma mère dit, bah non, mais elle est jolie sur la photo. Bah, je dis, enfin, vis-à-vis de moi. Et là, mon père me répond, non, mais quand tu rencontreras quelqu'un, on l'enlèvera. Putain, il y a des trucs. Je me dis, à mon avis, il les prépare. Elle est trop bonne, celle-là, franchement, quoi. Après, ils me disent, tu parles pas de nous dans les spectacles? Non. Oh, ouais. Ah, ça n'a jamais été facile entre nous, quoi. Si on reprend un peu l'image de Montaigne et de la vitesse intérieure, ça coinçait, parce qu'elle était hyper active. Toujours à vouloir faire des trucs. Lundi, yoga, mardi, pilates, mercredi, batterie, jeudi, tennis. Elle était là, ouais, faut faire des choses, faire des activités, c'est ça qui rend heureux. Toi, tu fais rien. J'étais là, je suis heureux sans rien faire. J'ai peur qu'en faisant des trucs, je sois trop heureux, quoi, tu vois. Mais non, non, si tu fais rien, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est éteint en toi. Oh, les grandes phrases. Elle était là, prends des vitamines, prends des vitamines. Putain, je dormais plus la nuit, quoi. Elle était là, prends du cuivre, prends du cuivre. Putain, je me faisais concer par les gitans, quoi.
On enchaîne donc avec Le sens de la vie, le titre du spectacle d'Alexis Le Rossignol. Comme Roman Frayssinet, il cherche à prendre la vie du bon côté, on l'a dit. Il fait aussi ici l'éloge de la lenteur, des échecs, des à peu près. Il joue à Paris les jeudis et samedis au théâtre Rive Gauche et il poursuit sa tournée en France en parallèle. Sacré planning. Donc, en quelques mots d'abord, Adrien Denouette.
En vraiment quelques mots, c'est une très bonne surprise. Ouais. Et pour illustrer ça très simplement, à un moment, il cite Montaigne et il dit que ce qu'il aime beaucoup dans Montaigne, c'est que il faut apprendre à trouver son bon tempo, son bon rythme. C'est très exactement l'impression que m'a donné ce spectacle. Et pourtant, je l'ai vu en captation. J'ai vraiment eu l'impression d'assister au spectacle de quelqu'un avec absolument parfaitement trouvé son tempo, son rythme à lui et son personnage.
Rossana Di Vincenzo.
Je suis assez d'accord avec ça. C'est l'humoriste désespérément normal qui assume complètement la nullité du quotidien, sa normalité, une espèce de Pierrot la Lune du stand-up qui est complètement à sa place alors qu'il n'a aucune place en fait dans le stand-up. Il détonne complètement, quoi.
Adrien Denouette, il détonne complètement.
Ouais, bah c'est vraiment ça. Moi, il y a un truc que je trouve très très touchant et qui est très complémentaire en fait de ce qu'on se disait sur Roman Frayssinet, c'est qu'en fait ces deux postures qui sont celles de dire bah un peu Hakuna Matata, sans, bon, j'aurais pas pu être un grand acteur de la comédie française, je fais du stand-up, qu'est-ce que ça raconte de moi? Bah que au fond, j'en demande pas beaucoup plus à ma nature, mais voilà quel regard je peux porter sur la vie. Et donc vous avez cette espèce de, mais là où c'est très fort chez Alexis Rossignol, c'est que je ne là où en fait chez Roman Frayssinet, je sens une espèce un moment on prend le surplomb sur le public, tout en faisant semblant d'être avec lui. Alexis Rossignol, jamais. Alors qu'en fait, il vous inocule de vraies questions existentielles. Donc, ça s'appelle Le sens de la vie, son spectacle. Et d'emblée, il vous dit, bon, ça s'appelle Le sens de la vie, mais en fait, je vais pas du tout vous éclairer là-dessus. Ce qui est faux, en fait, c'est une posture de vraie modestie. Parce qu'en fait, il va vraiment vous éclairer sur le sens de la vie. Mais comment il va faire? Par un savant jeu de tour de passe-passe, il va, en parlant d'extrême banalité, comme le citer Rossana, quelque chose de très très nul, quelque chose de très plat. La vie, c'est aller chez Lidl, c'est choisir, c'est se laisser séduire par un outillage Silvercrest, parce qu'en fait, c'est complètement fait pour vous séduire. Et puis il le dit, puis il dit qu'il le fait, puis il lui dit que ça n'a aucun sens, mais qu'il aime bien. En fait, il vous dit, peu à peu, comme ça, il déplie une espèce de philosophie qui est un vrai épicurisme, en fait. Mmh. Et pas au sens détourné, vous savez, on imagine que l'épicurisme, c'est profiter de la vie, un peu, on confond avec l'hédonisme. Il dit, non, lui, l'épicurisme, il revient vraiment à ce que c'est. Je pense même que c'est quelqu'un qui a, pour de vrai, probablement lu de la philosophie. C'est quelqu'un qui vous dit, l'épicurisme, c'est savoir se satisfaire des plaisirs simples. Et à un moment dans son spectacle, il vous dit, mais vous savez, alors qu'il vous a raconté que des choses très banales avec un personnage qui, effectivement, qui est plutôt lent, qui a pas l'air brillant, qui ne joue pas sur à vous montrer la vivacité de son esprit ou quoi. Mais en fait, derrière ce personnage, il vous dit, mais moi, je suis un miraculé de la vie, j'ai vécu un accident. Ce qui est probablement vrai, parce qu'en fait, je pense que ce mec-là n'existerait pas s'il avait pas été un miraculé de la vie. Et donc, il vous dit, cette expérience du Silvercrest, voir que le fossé technologique entre mes parents moi, qui ne savent même pas prononcer l'application WhatsApp et qui disent WhatsApp, et qui fait rire énormément le public, parce que c'est vrai, si vous avez des parents soixantenaires ou soixante, bref, un peu plus, on refotographie des photos qui étaient déjà numériques, et il vous raconte tout ça, et vous dit comment lui, au fond, ça suffit à le faire rire, et ça suffit à aimer la vie. Et il a un mécanisme qui est très très astucieux, qui est très simple. Une fois encore, je suis pas en train de vous vendre le spectacle le plus brillant, et c'est pas du tout ce qu'il prétend être. Mais il a un mécanisme très simple, c'est qu'il vous pose une question existentielle. Waouh, ça pourrait passer pour quelque chose de prétentieux. Et d'emblée, il illustre avec quelque chose de très très banal. Il vous dit par exemple, non, rassurez-vous, je vais vous parler de Lidl, je vais vous parler de WhatsApp, je vais vous parler de mes frères, je vais vous parler des conneries que j'ai fait. Mais sans jamais essayer de prétendre être supérieur ou avoir une connaissance plus profonde ou lucide de la vie. Ça n'est jamais une démonstration de force. Et pourtant, je trouve que c'est une grande, c'est un stand-up discrètement d'une très grande profondeur.
Rossana Di Vincenzo.
Je suis assez d'accord avec Adrien sur le fait que Alexis Rossignol n'est jamais dans la performance. C'est pas performatif, quoi. C'est-à-dire qu'il n'en fait pas des tonnes. Il se présente sur scène, je pense. Alors, pour le coup, lui, je ne l'ai pas interviewé, contrairement à Roman Frayssinet, mais il se présente sur scène un peu comme il est dans la vie, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il est dans quelque chose où il se demande un peu ce qu'il fait là, souvent. Il s'étonne même qu'il y ait des gens dans sa salle, que les gens rient. Ça en fait quelqu'un de profondément humble et en ça, c'est assez agréable effectivement en tant que public puisqu'effectivement, il n'est pas dans une posture supérieure par rapport à nous et donc on peut s'y identifier complètement. Moi, j'adore, je trouve qu'il y a presque une poésie chez Alexis Le Rossignol, une tendresse. Enfin, il est profondément attachant en fait dans sa normalité. toutes les anecdotes qu'il raconte. Alors bon, moi j'ai vu le spectacle il y a plus d'un an maintenant. Je suis retournée le voir à la Gaîté Rive Gauche il y a 2 semaines pour voir un peu comment ça a évolué. Et j'ai re-regardé la Capta. Je l'ai vu en triple quoi. Le spectacle a beaucoup évolué. C'est quelqu'un qui a été chez France Inter pendant longtemps et qui s'est souvent, je pense, senti absolument pas à sa place d'être chez dans l'écurie France Inter à la bande originale avec Nagui et qui du coup arrive avec des passages en tout cas où il raconte effectivement des anecdotes complètement qui pourraient avoir l'air inintéressantes au possible. Alors le Silvercrest, mais il y a aussi effectivement le WhatsApp des parents quand il change ses radiateurs avec un tuto YouTube qui vire à la catastrophe. Enfin, on est dans une espèce de Gaston Lagaffe comme ça qu'on regarde un peu, qui est ahuri, qui a cette espèce d'air un peu benêt, mais qui est, je pense, est loin d'être bête. C'est pas impossible effectivement qu'il ait lu beaucoup et qu'il soit bien plus intelligent que ce qu'il ne prétend être sur scène, mais il assume sa vitesse intérieure lente, comme il dit. Et en ça, ça fait, enfin, je trouve qu'on se connecte complètement à lui, quoi. Donc, dans la nouvelle version que j'ai vue, là, il y a 2 semaines, il a un sketch qui est hilarant, justement sur sa période à France Inter où, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, il offre à la période de Noël, Nagui offrait des cadeaux à tous les chroniqueurs et lui ne voulait pas en recevoir parce que bah, c'est Nagui, quoi. Donc, voilà. Mais 3 personnes de l'équipe décident de lui en offrir un quand même, dont lui, et il se met dans l'idée de lui offrir des chaussons. Donc, des chaussons recouverts d'une feuille de chou. Et ça vire à la catastrophe, et c'est ridicule. Et on se dit, mais comment ce type peut avoir eu cette idée-là? Et c'est vraiment tout ce qu'on se dit en regardant le spectacle, c'est mais qu'est-ce qui lui passe par la tête, quoi? C'est pas possible. Et il assume ça. Et en ça, je trouve que ça crée quelque chose de vraiment très, très profond dans la connexion que ça peut avoir avec le public. Ça pourrait être un grand successeur de Pierre Richard pour moi. Si peut-être il musclait un petit peu plus son jeu, si, parce qu'on a l'impression des fois qu'il assume pas, alors que je pense qu'il pourrait beaucoup plus assumer justement sa force comique, quoi, sa vis comica, comme on dit.
Adrien Desnouettes, un dernier mot.
Non, mais très très intéressant de rappeler que en fait on aurait pu le découvrir sur France Inter et qu'en fait je ne l'avais pas découvert sur France Inter. Je l'avais entendu sur France Inter, mais je l'avais pas relevé.
Ouais.
Pourquoi? Parce que c'est complètement ce dont vient de parler Rossana. C'est une question de tempo et de rythme.
Ouais.
Le rythme de la radio, c'est-à-dire cette espèce, pardon, mais je le dis sans jugement,
dire.
Le mien, voilà, mon hystérie à moi, l'espèce de toune de la radio. En fait, ça c'est le rythme des chroniques.
Ouais.
Et lui n'a pas ce rythme-là. Et
on l'a entendu vraiment un rythme très lent.
Ouais, ouais. Piano, son rythme à lui, comme le dit Montaigne dans les essais, je sais pas lesquels, numéro 3 peut-être. Et bref. Il prend son rythme, mais en fait, dans le dépliement, comme ça, quand ça se déploie dans la durée, eh bien, j'ai découvert un humoriste, ce qui nous rappelle qu'il ne faut pas prendre les chroniques France Inter pour la réalité, mais simplement un exercice dans lequel tout le monde ne fit pas.
Et qu'il faut aller voir les spectacles en salle, parce que c'est du spectacle vivant et que c'est là que ça se voit, quoi.
Et c'est un garçon qui n'a pas du tout le même parcours que Roman Frécinet et qui est arrivé un peu plus
tard. Non,
sur
bah c'est tout l'inverse. En fait, il commence à l'âge où aujourd'hui Roman Frécinet a déjà connu une très très grande réussite. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, moi j'ai commencé il y a 10 ans, avant j'ai connu un peu de galère, cet accident, et je pense qu'en fait le meilleur de moi-même, bah, c'est cette espèce de performance molle, épicurienne que je suis en train de vous livrer.
Le sens de la vie, Alexis Le Rossignol au théâtre Rive Gauche à Paris les jeudis et samedis. Et puis en parallèle, la tournée en France, Bordeaux, La Bolle, Houille, Cherbourg, Toulouse, toutes les dates sont évidemment sur l'application France Culture. Merci à tous les deux, Adrien Desnouettes. Merci Rossana Di Vincenzo pour cette première. On se revoit très vite pour une prochaine table ronde critique. Vous qui nous écoutez, restez avec nous, on revient tout de suite.